Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show. Nous sommes encore en vacances, mais plus pour très longtemps.
Allez, on revient lundi.
Lundi.
On est là.
On est là en direct à 15h avec plein de débats, plein d'infos, plein d'invités. Mm-hmm. Le programme habituel du Super Moscato Show des Kikadi des journaux moyens. Vous serez servi.
Le Kikadi du jour, 17h45, là, ne zappez pas. Restez bien avec nous, puisque...
Qui disait ne zappez pas, c'est Morandini.
Jean-Marc Morandini. Ah, oui. Il disait ça quand il était sur RMC, oui. D'ailleurs. Tu avais traité Vincent Moscato de calamar dans ce Kikadi.
C'est vrai, hein.
Ce Kikadi du 19 mai dernier.
Il m'a pas fait de procès pour diffamation.
Donc, oh là là, diffamation. Kikadi, donc chaud, avec une altercation. Pierre Dorian, Vincent Moscato à 17h45.
Mais tout de suite, les pubs pendant les matchs de la Coupe du Monde de foot.
Tous les mois pour une nouvelle émission sur TF1, Pognon.
C'est pas vous le diffuseur qui allez vous peindre.
Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon.
De Michel Polnareff.
Qui viendront pour le pognon.
J'ai un match demain, j'ai 23 joueurs qui sont ça.
Pognon, une nouvelle émission.
Je tenais toutefois à dire que la FIFA.
Faites par ceux qui ont du pognon.
Que on a tendance à reposer.
Pour se faire encore plus de pognon.
Je préfère revoir ces joueurs arriver avec le sourire rire. Et...
Avec Téléstar. Et pognon.
On m'a donné le mandat pour
tous les mois gagner 12 francs.
Au cours de ce troisième mandat, je sais pas ce qui se passe.
Et forcément, on a pris tout le pognon.
Vous en déduisez ce que vous voulez, ça sera votre interprétation.
20h30 sur TF1, la chaîne du bonheur.
La Coupe du Monde 2026, c'est sur RMC que ça se passe.
Un vieillard.
Donc, c'est le sujet sérieux. La FIFA, et puis après, je sais pas ce qui se passe.
C'est l'émotion. Même Michel, il peut être ému. Tout. Alors, le sujet est sérieux et intéressant. Vincent, l'interruption pub au milieu des matchs de foot, ça y est, on y est. Ça sera pendant la Coupe du Monde aux États-Unis. Et quelle que soit la météo, je précise, parce qu'on parle d'une pause fraîcheur de 3 minutes imposée à la moitié de la première mi-temps et à la moitié de la deuxième mi-temps. Ouais. Les diffuseurs en ont été informés. L'intention est claire, une interruption publicitaire pendant les matchs. Mais Vincent va régler ce problème tout de suite sur RMC. Les explications de Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Alors, Pelletier. Ça sera le cas dans tous les matchs pendant la Coupe du Monde. Il y aura des pubs en plein milieu.
Oui, et c'est une révolution pour le football. On parle à la 22e minute de jeu et à la 67e minute. Les joueurs vont réaliser une pause fraîcheur. Mais cette pause ne sera pas d'une simple minute. 3 minutes de pause fraîcheur. Dans sa communication, la FIFA appuie son argumentaire sur la santé des joueurs et sur la chaleur lors de la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais ces pauses fraîcheurs ne tiendront pas compte de la météo ni de la présence d'un toit au-dessus des terrains. Elles sont instaurées pour tous les matchs dans un souci d'équité, fait savoir la FIFA. L'instauration de ces pauses avec un timing très précis est une très bonne nouvelle pour les diffuseurs. Ils pourront diffuser des spots de publicité en respectant une durée précise. Cette demande émane notamment du diffuseur américain de la compétition, la Fox. Les diffuseurs pourront commercialiser ces spots à des montants très importants. Une publicité en plein match, ça vaut des milliers d'euros. Autre conséquence de ces pauses, les matchs de football vont normalement dépasser les 2 heures entre le match de 90 minutes, les 6 minutes de pause fraîcheur, la mi-temps de 15 minutes et le respect strict du temps additionnel demandé aux arbitres. Les matchs devraient s'approcher des 120 minutes. Conséquence, la FIFA, en accord avec les diffuseurs, n'enchaîne pas les rencontres comme ça pouvait être le cas au Qatar. La plupart du temps, 1 heure de battement est prévue entre les matchs.
Merci Nico. Vincent, t'as pas l'air choqué plus que ça par ces pubs pendant les matchs.
Pas du tout. On a vu quand on était jeune, les pubs arrivaient pendant les films. Ça existait déjà en Espagne. Tout le monde a gueulé à l'époque. Non, mais c'est pas possible, je regarde plus la télévision. Parce que vous en rappelez plus.
Parce que c'est toujours chiant.
Oui, non, mais
c'est toujours chiant.
C'est toujours aussi chiant,
les pubs pendant les films.
Non, oui, mais bon,
Vincent, il va dans le frigo.
Oui, mais tu t'adaptes.
Ouais, mais toi, c'est le problème, tu n'es pas un bon exemple, toi. Tu passes qu'à bouffer, à boire.
Ce que veut dire Vincent, c'est que les gens ont toujours autant regardé les films à la télé.
Autant regarder les films à la télé. Alors que là, on trouve un financement. Au moment où on n'a plus de financement, la première ligue, il n'a pas de financement. Notre ligue, non, la Ligue 1, il n'a pas de financement, tout ça. Trouver un financement.
Mais alors, la FIFA n'a pas besoin de financement, je te rassure.
La FIFA, ils sont plus riches que nous, que la France.
T'en es pas sûr. Donc, ils trouvent un moyen de faire des pubs. C'est la Fox. Ils sont là pour faire de l'oseille. Ils font de l'oseille. C'est l'entreprise de spectacle, que ça vous plaise. Bien sûr que sur le sport, je comprends que ça vous dérange sur le sport par lui-même. Mais 2-3 minutes, c'est pas énorme.
Ça coupe
pour
le match,
moi. Ça coupe le match. Oui, mais ça coupe le match.
Imagine une équipe en train de pousser, là.
Et la vidéo, elle coupe le match. Et ça, donc, on bouge plus. Mmh. On reste en 1900 au football et on reste en 1900. Tout le monde est content. Et voilà, moi, je suis un progressiste dans ma vie.
Pour le foot, c'est bien.
J'aurais été un progressiste.
définition du progressisme.
Ah bon, ouais, ouais, ouais. La définition du progressisme, c'est quand on épouse vos idées. Quand on épouse vos idées, c'est ça, les progressistes, pour vous. Mais moi, mon progressisme, c'est ça. Moi, je veux des mi-temps fraîcheurs, des ponts fraîcheurs, pour justement, pour que les joueurs puissent se reposer, pour ne pas abîmer les corps ni de nos sportifs.
Donc bientôt, tu dis, il y aura des matchs où il pleuvra des cordes et on fera des pauses fraîcheurs de 30
minutes. Mais non, mais chocolat chaud, ça serait une pause chaleur. Donc on mettra des chocolats
en Amérique du Sud,
des
coups sur les matchs du Brésil.
Donc, le progressisme, c'est pas ça. Pire.
Juste en Amérique du Sud, sur les buts, le commentateur qui commente le but, le Jean-Louis Tour local, cite une marque quand il y a un but. Il dit c'est un but.
Corona.
C'est un but avec Coca-Cola. Il écrit c'est le contrat. C'est
le talonneur vous en faut ce but.
C'est ça. C'est ça.
Tu crois que j'aurai quelques pubs pendant la Coupe du Monde?
il faut payer. Écoute, je suis entre le désespoir et ce que vient de dire Vincent, parce que à l'arrivée, on est tous, enfin vous êtes jeunes, avec Vincent, on est déjà des vieux cons. Ouais. Vincent, ça fait un peu plus tôt comment il est vieux con, mais nous on idéalise notre monde et notre football qu'on a connu, on voit que ça change.
Ben voilà.
Et ça, c'est le changement ultime. Comme vous y arrivez quand même, hein. Ça faisait un moment, rappelle-toi, quand la Coupe du Monde en 94 est allée aux États-Unis, on s'est dit, ils vont nous faire un truc à l'américaine, puisque là-bas, c'est culturel de couper. Ils coupent tout, à part de la pub là-bas.
Ouais, ils avaient demandé en 94, la FIFA avait refusé. Hein.
Mais voilà, donc là-bas, aux États-Unis, hop, tu fais un calais, il faut s'arrêter pour une pub, tu vois. Chances. Donc même les films de boules, à un moment donné, ils ont de la pub au milieu. Je rigole pas, c'est pour vous montrer à quel point on était obligé d'y arriver, surtout avec une Coupe du Monde là-bas. Voilà, donc j'ai presque envie de dire, malheureusement, c'est dans l'ordre des choses. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que, contrairement à toi, Vincent, les pubs dans les films, pareil, quand on l'a vu arriver, ben moi, je m'y suis pas habitué. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je fais maintenant, parce que vu que les films, je les regarde plus en direct maintenant, parce que tu as la chance de pouvoir revenir sur. Alors, il a commencé depuis un quart d'heure, bim, je me mets au début, quand il y a la pub, j'avance. Mais sauf que maintenant, ils ont trouvé la parade à ça sur certaines chaînes. Je crois que TF1 Series, là où je sais pas quoi, tu peux plus avancer quand tiens la. Donc ce que je fais maintenant, parce que je les ai couillonnés, donc je me remets au film à la minute où je suis et je reviens pour aller après la pub, parce que tu peux plus avancer.
Quand t'as regardé le replay de PSG Inter sur la finale des Champions, t'as fait comment?
Non, mais je l'ai pas regardé ni en replay ni en accéléré celui-là. Mais tout ça pour dire que on s'est pas habitué à ces pubs dans les films, ça casse tout. C'est insupportable et je suis désolé. Et Adrien a eu parce que il y a le côté, pour moi c'est pas beau, mais il y a le côté aussi, il y a une dimension physique dans le foot,
surtout pour
aussi,
le match
dans le rugby.
Moi j'ai vu du film d'autorité,
donc imagine une équipe physiquement en deuxième mi-temps qui est en train de pousser avec la chaleur et tout, tu vas faire, et là l'arbitre ici il dit hop, repos pour tout le monde de 3 minutes
après. Non, tu le sais,
après 3 minutes c'est long,
après ce genre de choses là
3 minutes c'est long.
Après, ce genre de choses-là existe déjà. Tu parlais
mais au rugby, ça existe.
Tu parlais d'un football, une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Au basket, c'est exactement la même chose. Les coachs sont la possibilité de le point mort pour couper les dynamiques.
Mais là, c'est les coachs qui choisissent. Ça fait partie des règles du jeu.
Là,
c'est
pas culturel chez vous.
Mais alors là, vous adressez un mec qui vit avec ça, avec la NBA. C'est-à-dire que la NBA, le match se joue, il y a une action, et t'as un petit encart en haut à droite.
Mais c'est le même argument que Vincent. Moi, quand je vois ça dans les matchs NBA, ça me saoule, ça me gâche le match.
Parce que je suis habitué. Et surtout. Alors il nous pipote avec la pause fraîcheur. On va penser aux joueurs, ça c'est peanuts. On va penser surtout à l'oseille. Mais surtout, peut-être que Fox, eux, ils ont un intérêt qui est comment faire regarder les matchs de football aux gens qui sont chez eux à la télé. Parce que les gens qui regardent du sport aux États-Unis sont habitués à ce que ça soit entrecoupé de pubs.
C'est leur rythme.
Ouais. Là-bas. Il reste pas 45 minutes non-stop devant un écran de télé où il y a un match
impossible.
De foot. Et donc ils se disent, nous on va faire ça comme ça toutes les 22 minutes, toutes les 20 minutes, les gens vont pouvoir se lever et voir ça comme un match de basket ou un match de NHL ou un match de football américain. Ils vont pouvoir continuer. Eux, ils pensent à ça. Par contre,
le diffuseur français n'était pas obligé de diffuser les pubs. J'ai appris qu'M6, le diffuseur, allait aussi
profiter de ça. T'allais pas mettre un débrief à la 22e minute.
Non, mais tu peux
Ils vont profiter. Ouais, mais dis-moi, ils ont la possibilité de faire une pub. Dis-moi, ils vont pas se gêner.
Pour être tout à fait honnête, RMC fera pareil. Nous aussi.
Nous, on fait pareil et le match, il continue.
Mais surtout, ça permettra aussi. On parlait des temps morts. Dans d'autres sports, il y a des temps morts où les coachs font des ajustements tactiques. Cette pause-là va peut-être permettre à des coachs aussi de discuter avec les joueurs, de faire des ajustements tactiques.
Mais c'est pas dans notre
culture. C'est bien la différence, c'est un diffuseur qui choisit de lui-même, comme le fait RMC, de passer une pub pendant le match, il prend son risque. S'il rate une action décisive, c'est tant pis. Là, ce qui est dérangeant, c'est quand le business prend le pas sur le sportif. C'est-à-dire que tout le monde fasse son beurre, c'est normal. Fonctionne comme ça, il le faut. Mais sauf que là, la limite, c'est tout. Pour moi, la limite, c'est toujours la même. C'est lorsque ça devient plus important, lorsque le business devient plus important que le sport. C'est-à-dire que là, on va interrompre le match.
C'est l'adaptation plus américain, Pierrot.
Mais je m'en fous de l'adaptation. C'est pas forcément une bonne chose. Tu vas complètement changer le rythme d'un match. Tu vas changer la dynamique en cours d'une équipe qui est en train de prendre le pas sur une autre. Ça n'a aucun sens.
Et surtout, on l'a vu avec l'arrivée de la VAR où les temps morts sont de plus en plus nombreux au foot. Et puis,
la prochaine étape, c'est deux interruptions par mi-temps. La prochaine, c'est trois, puisqu'il n'y a jamais de limite.
Mais la prochaine étape, ce sera 4
et à la fin, tu te retrouves, comme au basket, à avoir plus d'interruptions que de matchs.
Et c'est pénible à regarder. C'est le gros problème.
C'est pénible. Est-ce que la NBA ne fait pas un carton médiatique?
Les meilleurs matchs de basket, c'est pas la saison régulière des NBA. C'est-à-dire que quand l'intérêt sportif n'est plus au centre de la compétition, c'est bien chiant. Je suis désolé.
Le problème de cette histoire, c'est que là, ça veut dire qu'on a déposé les armes. Alors, je vais pas faire mon édito politique parce qu'Adrien va se moquer de moi. Mais c'est la vie est comme ça maintenant. C'est-à-dire que les jeunes n'arrivent plus à être attentionnés une heure de suite en cours, on va leur mettre des cours de 45 minutes. Ils n'arrivent plus à lire, donc on leur met des bandes dessinées avec de l'écriture. Et donc maintenant, les Américains, ils n'arrivent plus à regarder 45 minutes de sport. Moi, je suis pour éduquer les gens. C'est-à-dire que nous, quand on regarde votre sport, le basket, qui est le sport américain, eh bien, on se plie à votre règle. C'est-à-dire que vous avez des temps morts, vous avez des coupures, vous avez des ports, donc des pubs. Donc nous, on s'adapte. Donc les Américains, c'est le sport européen, voilà, avec une culture. Eh bien les gars, vous le vivez comme nous. 45 minutes, vous regardez le match. Voilà, mais nous non. On dépose les armes.
J'espère, Eric, qu'on n'arrivera pas à ce qu'on a vécu.
C'est ça.
Dans les années 90-2000, souvenez-vous, la Formule 1, quand c'était TF1 le diffuseur en France, c'était autorisé par la FOM, par l'organisateur de la Formule 1. Souvenez-vous. TF1 balançait des pubs pendant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix.
Alors qu'il y en avait, on loupait
2 ou 3 tours. Parfois, tu revenais de pub et t'avais le commentateur, Jean-Louis Moncey, qui disait, il y en a un qui s'est foutu dans le mur, il y a eu un dépassement. C'était fou.
Et d'ailleurs, Adrien, hier, on l'a dit, en substance d'entre débat sur la Formule 1, mais il faut dire bravo à Canal Plus, depuis qu'ils ont racheté la Formule 1.
Et le MotoGP.
Ah,
mais tu payes pour Canal.
Oui, non, mais on s'en fout.
Il n'y a jamais eu de pub pendant les compétitions.
Non, mais je parle de la qualité de la retransmission. Vous avez vu la qualité de la retransmission.
C'est pas eux qui le font, c'est livré.
Ils payent pour ça, Eric. Oui, mais c'est quand même un choix
de la part du diffuseur. Bien sûr, Eric, ils ont choisi de faire de l'ultra qualité. C'est quand même mieux.
Canal
n'a pas de pub.
Mais peu importe, ils pourraient aussi Canal faire un spectacle de moindre qualité pour gagner plus d'argent. Leur choix est différent.
Mais le rapport est différent.
Moi, je préfère un diffuseur qui fait de la qualité qu'un diffuseur qui fait de la pub.
Bravo Bolloré.
Et nous,
tu payes un certain montant, tu as produit qui est livré, la prod est livrée comme ça.
Là où Eric, je suis très d'accord avec Eric, c'est que c'est une fatalité, et puis il n'y a pas à réfléchir, on ne réfléchit plus, c'est comme ça. Si vous voulez,
vous allez
pleurer,
vous allez regarder, vous n'allez pas broncher, voilà.
Mais non, c'est pas vrai, parce que quand on regarde un film, il l'a très bien dit Eric, on s'y est habitué, mais c'est toujours aussi pénible. T'es bien dans ton film, t'es dans ton dans ton intrigue, et puis d'un coup ça s'arrête. Tu... Et ben moi ça m'emmerde.
Et tu vois,
ça m'emmerde. Voilà.
Et tu vois Vincent, et tu vois Vincent.
Moi pas moi. Un film n'est pas réalisé pour s'interrompre trois fois. Un film c'est fait pour être juste du début à la fin.
Non, c'est pas profiter de la pub. Vincent, il fait une activité.
Alors avant moi j'allais voir un Gaillac, des films. Non. Le docteur Jivago, il coupait, il y avait l'entracte, on mangeait des glaces, et machin, nada,
parce que.
Tu as vu les neneux qui sortent de Gaillac aussi, non, quand même.
À l'époque, les films étaient faits pour avoir un entracte. Aujourd'hui, les films de cinéma ne sont pas faits pour être coupés par des pubs. Donc, quand on voit des pubs, c'est chiant. Et en revanche, les séries sur les plateformes sont faites pour être interrompues. Et c'est pas du tout le même rythme. Et ben, moi, ça m'emmerde qu'on interrompe quelque chose qui n'est pas fait pour être interrompu, comme un match de foot.
Un match de foot
n'est pas fait pour être interrompu trois fois.
Je vais te dire, des fois, je regarde les matchs de foot. S'il y avait des pubs, ça va venir du monde. Qu'on regarde les pubs, parce que les matchs de foot, c'est, des fois, c'est terrible.
Pour aller dans le sens des risques, il faudra faire attention dans les prochains mois. C'est la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis, donc on s'adapte au public américain.
C'est la suite.
Mais si un diffuseur en France, pour la Ligue 1,
ça y est,
voilà, pour la Ligue 1, ouvre la porte à
la Ligue 1,
la Ligue 1, c'est la moindre des choses. Il y a plus une thune. Si en plus, vous leur enlevez ça, vous n'allez pas gueuler. Il n'y a plus une thune non plus.
Excuse-moi,
ça n'ira pas.
Tu penses que Ligue 1 Plus va trouver des mecs pour envoyer, pour bombarder des montagnes d'habitants?
De l'argent.
La pub générée va au diffuseur, Vincent, pas au club.
Non, mais enfin, il n'y en aura jamais.
C'est un rythme, le match. Il y a un rythme. Déjà, le débat sur la VAR, il y avait ce débat-là sur le rythme du jeu, que ça va casser le rythme du jeu, que ça va. Donc déjà, ils nous cassent le rythme avec la VAR déjà. Ils veulent. Pourquoi ils mettent mettez la pub pendant la VAR, pendant qu'on y est. Pourquoi il n'y a pas la pub pendant la VAR comme ça?
Tout à fait, c'est Eric, pour pas grand-chose, parce que
vous allez vous adapter.
Tout le mois d'août, juillet, août, quand la Ligue reprend, il y a des pauses fraîcheurs. Plutôt que de filmer le terrain, tu mets des poches de pub. Quoi, ça dérange.
C'est beaucoup plus court que 3 minutes.
Ce n'est pas systématique et ce n'est pas instauré comme incontournable.
Au rugby, ça fait 20 ans que ça existe. Moi, ça me gêne jamais qu'il y ait une pause de fraîcheur.
Il n'y a pas de pub.
Mais c'est une pause fraîcheur. Soyez pas naïfs.
C'est pas gênant qu'il y ait
une fois de temps en temps l'été, tu mets une pause fraîcheur.
On parle de quoi? Ce qui vous gêne, je ne pense pas que ce soit l'oseille. À moins que ce soit l'oseille qui vous gêne.
C'est toujours la matière qui doit être au service de la pub. C'est pas l'inverse.
Alors, nous, au rugby, ça fait 20 ans que ça existe. Tu le vois, les matchs, ils sont hachés en début de saison. En Afrique du Sud, partout, machin. Il y a des pauses, ça dure 5 minutes. 5 minutes, ça coupe au milieu de la mi-temps. Ça m'a pas gêné une seule fois. Faites-vous des nœuds. Restez dans cette espèce de foot, de mouvement où il n'y a pas aucun mouvement.
Vous avez qu'à enlever
une mi-temps. Là, il y aura du rythme. Parce qu'à Ligue 1, je regarde le rythme, ça va rien changer.
Donc, à la prochaine Coupe du Monde, on fait 3 interruptions de 2 minutes par mi-temps.
Pourquoi tu dis une, Piro? Si je te dis la même chose.
Pourquoi il y aura-t-il une limite?
Puisque il y a des limites au spectacle.
Quelle est-elle? Il n'y en a pas? Il n'y en a aucune?
Non, mais arrête de dire ça.
Quelle est-elle?
Tu l'as mouché, Pierrot. Il y a une limite au spectacle. Américains font.
Il a bégayé.
Quand il y a du spectacle, il faut attention de ne pas le tuer. Parce que c'est la poule aux œufs d'or. Donc là, il ne tue pas avec le poulet. On ne me trompe pas d'eux. Mais oui, et oui, Pierrot. Regarde, Pierrot.
Tu l'as fait bégayer, Pierrot.
T'as déjà regardé un spectacle sportif aux États-Unis? La limite, il n'y en a aucune.
J'ai vécu avec Adrien.
Si demain t'as un sourd, si tu rajoutes une pub encore pendant je sais pas quoi, tu l'auras, tu iras droit.
Non, mais après, Pierrot, tu sais ce qu'il veut. Le gros, il veut s'arrêter.
Le gros,
parce qu'il va devenir plus gros, parce que lui, du coup, toutes les 20 minutes, il va aller se boire un soda, un gros paquet de popcorn, et après, un sauciflard, et après,
une bière. On s'arrête là, on en reprendra dans le monde.
Mon plaisir, c'est que pendant la mi-temps dans la Ligue 1, il y a un cadre qui arrive à trembler comme ça.
Voilà, bon. Vincent trouve ça très bien, donc c'est pas une très bonne idée.
Alors là, il y a un témoignage incroyable qui va arriver. Restez bien là. Cyprien Sarrazin, notre champion de ski, qui s'était éclaté la tête.
Énorme chute sur la piste de Bormio il y a un an.
Qui a failli mourir. Il va nous raconter notamment son réveil. Souviens-toi de ce moment dans le Moscato Show. Ça donnait des frissons.
Allez, c'est parti. C'est dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show jusqu'à 18h et Rotten sans flamme. Toute l'actu du foot revient dans quelques minutes sur RMC. Mais d'ici là, on aura eu deux très beaux témoignages. Celui de Clarisse Agbegnénou qui nous raconte son programme jusqu'au JO 2028 pour décrocher une nouvelle médaille d'or. Et pour démarrer, celui de Cyprien Sarrazin, miraculé du ski alpin, qui nous a raconté donc ses nouveaux pas sur les skis, mais surtout son réveil après sa grave chute et son opération il y a un peu plus d'un an.
RMC,
le cri du cœur du super
le descendeur du Tour de France qui a de nouveaux skis un an après sa lourde chute à Bormio. Un petit miracle pour le skieur de 31 ans qui est en direct avec nous. Salut Cyprien.
Salut à tous.
Salut Cyprien.
Ça va, la forme?
Ouais, ça va bien, la banane, ça va bien. Surtout.
Ah oui, c'est cool. De skier en babouche, ça devait t'arriver aussi.
Cyprien, t'as skié dans quel cadre? C'est pas un retour à la compétition encore, on est d'accord?
Ah non, là, c'était du tourisme.
Mm-hmm. Alors, quelles sont les sensations? Comment tu t'es senti?
Vraiment bien, vraiment bien. Ouais. Je suis content d'avoir patienté tout ce temps pour remonter dans des bonnes conditions, d'avoir de la bonne neige. Moi, j'étais physiquement plus prêt qu'il y a quelques temps, donc voilà, ça s'est passé.
Aucune appréhension?
Non, l'appréhension zéro. Et ça c'était cool.
Tu étais heureux?
La première piste, j'avais la banane, j'avais envie de me lancer.
T'as été vite? Parce qu'avec comme toi, bon, c'est sûr que si c'est comme si un mec de Formule 1 a un accident et qu'il roule à 60 km/h, il n'aura pas d'appréhension. Mais
est-ce que tu as eu envie d'aller vite suite?
Ouais, j'ai essayé quand même d'aller faire des courbes qui me font kiffer. C'est sûr que, comme tu dis, hein, à 60 km/h pour un mec de Formule 1, il prend pas trop de plaisir. Là, j'ai eu du plaisir.
T'as été un peu plus vite que 60 km/h. Ça va.
Ouais, peut-être un petit chouille. Allez,
Cyprien, des douleurs.
Mais on est à des années-lumière de faire de la descente.
Des douleurs encore ou pas?
À 150. Quoi. Ouais, des douleurs au genou. Mais par contre, la tête, nickel. Voilà, pas d'appréhension. Donc ça, c'est. Voilà, je pouvais. Mais je n'en doutais pas. Mais en tout cas, quand je suis remonté sur les skis, c'était. Tout de suite, je me suis dit,
Cyprien
Sarrazin, si j'avais arrêté hier.
Dans le Super Moscato Show, on parle de petits miracles parce que la chute à Bormio, elle est violente. Est-ce que tu l'as revue depuis? Est-ce que tu as des souvenirs?
Ouais, je l'ai revue. J'avais revu que le début de la chute quand je m'envole et que je manque d'atterrir. Enfin, après, je détournais les yeux. Et là, dernièrement, ils ont sorti un film. Il y a un film qui va sortir.
Le Bormio.
les descendeurs Downhill Skiers. Et dedans, il la montre de A à Z, ma chute. Et là, je l'ai regardé pour la première fois, donc il y a trois mois, à peu près deux mois. Et ouais, j'ai dit, ouf, je m'en sors quand même.
Où?
Enfin, bien. Oui,
où est-ce que tes souvenirs s'arrêtent sur ce jour-là?
Moi, mes souvenirs, ils s'arrêtent 30 mètres avant la chute. Donc, je me souviens de toute cette journée, de tout le début de l'entraînement. Je sais très bien ce que je pensais à ce moment-là et la porte d'avant ma chute, je me dis ah ben va un peu plus loin parce que la veille je m'étais déjà un peu fait peur à cet endroit-là, c'était un endroit très très dangereux et du coup je suis allé un peu plus loin et puis là plus rien jusqu'à six jours après voilà, j'ai rappuyé sur le bouton enregistrer, j'étais pas dans le coma tout ce temps-là mais j'étais conscient mais je me rappelle plus.
Alors t'étais conscient. T'as pas de souvenir. Mais tu n'as aucun souvenir de ces 6 jours où tu étais à l'hôpital en Italie?
Ah, ouais, exactement. 6 jours d'amnésie à l'hôpital en Italie. J'ai appuyé sur le bouton enregistrer juste avant de me faire rapatrier en France.
Si tu te souviens de rien, donc t'as pas peur, mais les gens qui sont autour de toi doivent avoir une frousse incroyable, quoi.
Alors, eux ont eu le syndrome post-traumatique pour moi, ouais.
Ouais, c'est sûr.
Mais alors, raconte-nous, comment tu reviens, entre guillemets, à un état de conscience, puisque tu dis que t'as pas de souvenir. Donc, je suppose, pendant 6 jours, bon, t'es resté alité avec des soins à l'hôpital en Italie. Et le jour où ça se rallume, comme tu dis, que se passe-t-il exactement?
Là c'était rigolo. Enfin maintenant j'en rigole, mais sur le coup c'était pas.
T'as fait n'importe
pas
quoi.
Ouf, mais ouais un petit peu presque ouais. Je me suis demandé ce que je foutais là. Bah, qu'est-ce que je fous dans un lit d'hôpital? Et là assez vite ça revient les souvenirs. Je me dis putain ouais j'étais à Bormio. Je me souviens pas de la course. Attends mais je me souviens pas d'être arrivé en bas du deuxième entraînement.
Ah ouais,
donc là je me dis ouf ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je me découvre un petit peu, je touche ma tête, j'ai dit ah ouais là il y a un truc sur la tête, j'ai dû avoir un jeton, mais j'étais pas certain de ce que j'avais, tu vois. Et j'étais bon, il y avait des cathéters dans tous les sens et tout, et je lève le drap et là je vois mon bassin, il était tout noir. Il était noir parce que j'avais un hématome, j'avais perdu 2,5 litres de sang dans le dos. Du coup, ils ont dû me transfuser pendant l'opération du crâne. Enfin, il n'y avait pas eu que le crâne, quoi. Il y avait d'autres trucs, mais et donc là, j'étais tout noir parce que l'hématome avait bougé en 6 jours. Et puis j'étais sondé aussi. Et là, j'ai fait oh là là, je crois que ça va vraiment pas. Et puis je bouge un peu mes pieds et tout, ça passe. Et c'était la nuit. Je me dis bah du coup, il faut que j'aille dormir. Sauf que ça faisait 6 jours que je dormais, donc j'arrivais pas à dormir. Et à un moment, il y avait du bruit dans le couloir et je me suis dit allez, je vais leur dire d'arrêter de faire du bruit. J'avais oublié que j'avais la petite sonnette. Du coup, j'ai essayé de me mettre debout. Ça faisait 6 jours que j'étais alité. Et là, les jambes qui tremblaient et tout. Et là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais. Mais après, ça s'est bien passé. Après, je me suis calmé. Tout le monde est venu me voir. Et puis, j'ai pris conscience un peu de tout ça.
Et il y a un autre
épisode. Mais en tout cas, je me souviens de tout. Et dans ma tête, c'était OK. J'arrivais plus à parler. Mais ça, c'était bizarre.
Mais que te disent les docteurs, donc, après coup? Est-ce qu'on te dit que tu vas reskier? Est-ce qu'on te dit qu'il y a un doute? C'est quoi le diagnostic?
Est-ce que c'était ta question? Est-ce que c'était ta question aussi au médecin? Est-ce que je vais refaire du ski à ce niveau?
Est-ce que je vais marcher? Surtout, non, la première, non, quand même.
En fait, le truc, c'est la première que je voulais poser, mais que je n'arrivais pas à poser, c'est est-ce que j'arriverais à reparler?
Ah oui.
Parce que je n'arrivais pas à parler au début.
Alors, raconte-nous, quand tu essayes d'échanger avec le personnel hospitalier en Italie, comment ça se passe?
Ah bah là, je veux leur dire, bah désolé, j'ai fait un peu n'importe quoi, et ça sort...
Ah ouais?
Ouais, non, c'était assez fou.
Dans ta tête, c'était clair?
Dans ma tête, c'était clair, je me souviens de tout, j'étais... Bon... J'étais un peu perdu aussi parce que j'avais un peu les cachetons qu'ils avaient fait et tout ça, donc c'était pas hyper clair. Mais en tout cas, je savais ce que je voulais dire, mais sauf que ça sortait pas. Et ça a duré 2 semaines. Deux semaines où j'ai galéré un peu à parler. Et après, jour après jour, j'arrivais à parler par exemple pendant 20 minutes. Puis après, avec un peu la fatigue, hop, ça repartait. Donc j'allais dormir et puis ça revenait. Mais voilà, la parole vraiment fluide, ça a mis un mois et demi. Et du coup, c'était à l'hôpital, c'est ce que je bossais du plus.
Pour le ski, du coup?
Ah ben non, mais là, les mecs, ils disaient,
tu pensais pas ça.
Un jour, t'arrives à reparler, à avoir droit aussi, parce que j'avais une diplopie. Ça, je l'ai gardé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je voyais double.
Ah ouais.
J'ai une image sur l'autre. Donc, je voyais 2 images là, exactement comme on est en train de voir, hyper nettes, mais l'une au-dessus de l'autre.
Oui.
Environ 20 cm. Enfin, je voyais 2 têtes l'une au-dessus de l'autre. Quoi,
et sur la parole, tu l'as garantie tout de suite que tu pourrais reparler ou y a les médecins t'ont dit c'est pas gagné?
Non, au début, franchement, les mecs, ils étaient là. Si un jour, tu arrives à avoir une vie normale, genre rentrer chez toi, pouvoir te faire à bouffer et tout, ce sera déjà un miracle.
Oh, mais t'as dû avoir peur quand même, non?
Ah bah là, ouais. Je sais pas comment j'ai fait pour garder mon sang-froid. Ben, il y avait ma famille, j'étais bien entouré. Mais non, au début, c'était, arriver à remarcher, à faire des trucs.
Donc, la rigueur de skier, rigueur de ce que tu as fait en ski, c'est miraculeux, quoi.
Donc, je crois que là, ouais, on peut dire que c'est un miracle. Il faut que j'en prenne conscience aussi. C'est pour ça que cette étape-là a été assez, assez riche en émotions et j'ai envie de la continuer un peu, de garder cette...
T'as des séquelles, t'as mal des fois à la tronche, aux jambes, un peu partout qui t'arrivent?
Non, jamais. J'ai jamais eu mal à la tête.
Des trous, ça, c'est des assez trous de mémoire.
T'as jamais eu mal à la tête?
Non, je suis presque même mieux vu que j'ai plus de...
T'as pas trop de
mémoire. Plus de stress, ça m'a remis des droits. Avant, j'oubliais des choses.
Je te rappelle pas que tu étais venu en studio, tu m'avais demandé 10 000 que je t'avais prêté.
Mais Cyprien, quand on parle de miracle là, pour t'es remonté sur des skis, est-ce que ce miracle, on peut le pousser plus loin à reprendre la compétition et faire des épreuves de Coupe du Monde?
Alors, si je fais tout ça, c'est parce que voilà, il y a cette envie-là, mais qui est loin. C'est une vision, on va dire. Mais là, maintenant que je suis remonté sur les skis, j'ai envie de profiter de ce moment-là, sans me mettre, sans anticiper d'autres étapes, sans programmer quoi que ce soit. Je vais continuer de me faire plaisir sur les skis. Je pense qu'à la base, c'est pour ça que je fais ce sport, c'est pour ces sensations-là.
Tu vas le tenter quand même, le retour en compétition?
Je peux pas le dire pour l'instant. Voilà, je vais rester sur le moment présent et on verra. Là, déjà, ce week-end, je suis à Val d'Isère pour supporter les copains.
Est-ce qu'il y a des cas comme toi où les mecs sont restés nœuds, ils sont pas revenus?
Ils sont restés dans le coma pendant 3 mois. Surtout des hémiplégies. C'est très fréquent. Non, c'est après,
toi, quand tu as bougé, la première chose que tu as fait, c'est que tu as bougé tes jambes. C'était parce que tu voulais te rassurer ou tu n'étais pas conscient du tout de bouger les jambes
Non, je voulais me rassurer. Ouais, quand j'ai vu mon bassin comme ça, j'ai fait oh là, mais
il y a un problème.
Ça bouge toujours.
Merci beaucoup, Cyprien Sarrazin.
Très fort témoignage. Hein.
Ouais, et très sympathique, Sarrazin, qui n'en fait pas des caisses. Hein. Il est passé
il
à côté
tout,
de
normalement.
Mais tout est normal.
Bravo, Cyprien. On est avec toi.
Allez, on enchaîne avec Clarisse Agbenienou, notre multiple championne du monde et championne olympique de judo.
RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show.
On accueille une habituée du Super Moscato Show, une de nos chouchoutes, Clarisse Agbenienou, triple championne olympique et sextuple championne du monde de judo. Salut Clarisse.
Salut Clarisse.
Salut
Clarisse.
Salut tout le monde.
Ah, moi j'applaudis.
Oui, moi aussi.
Et oui. Alors Clarisse, normalement j'aurais dû aussi compléter ce CV par sextuple championne d'Europe de judo, puisque tu étais allée au championnat d'Europe pour une sixième médaille d'or. Oui. Et la sixième, tu as été, on va dire, envolée en finale exactement. Sur une disqualification. Est-ce que tu as la haine? Est-ce que
Ah, mais je retire mes applaudissements.
Parce que tu étais vraiment allée très motivée, très prête.
Ouais.
Et c'est sur une disqualification que tu perds, pas sur du judo.
Non, ouais, et puis je me sentais bien. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Donc c'était dommage de terminer comme ça. J'avais tout donné, j'ai fait une très belle journée. Et pour une action qui n'est pas si dangereuse, quand on la voit, elle n'est pas si dangereuse. Je comprends les règles. Et de toute façon, quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est à moi de faire attention la prochaine fois. Mais on voit très bien que je ne vais pas lui casser le cou, des choses comme ça. Donc voilà.
C'est le cravate. Mais... Et ça t'était jamais arrivé avant, cette situation-là?
Bah, pas comme ça, non.
D'accord, mais ça tombe au mauvais moment.
Ouais, après, je préfère que ça tombe là qu'aux Jeux Olympiques. Donc,
bon, c'est la prise de la carotide.
C'est pas prendre.
C'est la prise du sommeil quand tu as
la carotide. Tu n'as pas dormi.
C'est peu limite, ça, je ne l'ai jamais vu quand même au judo. Je l'ai vu au rugby, mais
non, la cravate, c'est quand tu mets ton bras devant, comme ça. J'ai pas mis mon bras devant.
Tu comprends la décision, tu le vis quand même un peu comme une injustice sur le moment.
Sur le moment, je le vis comme une injustice, parce qu'en fait, logiquement, s'il y a une prise qui est dangereuse, ils sont censés stopper le combat. Donc là, il aurait dû dire maté directement. Mm-hmm. Il l'a pas dit, donc moi j'ai attaqué parce que maintenant on peut attaquer aussi quand la personne se relève. Donc en fait, pour moi, c'est pas de mon biais. Si jamais j'avais fait une action dangereuse avec le coude qui est plié, bah là, j'ai pas le choix. Mais là, il était censé dire maté, mais il a dit oui, mais comme c'était debout que tu peux attaquer, ouais, mais non, donc c'est moi qui prends, alors qu'au final, maintenant on peut pas discuter l'arbitre, c'est fait. Hein.
Alors ça, c'était il y a quelques jours au championnat d'Europe, et il y a les championnats du monde qui arrivent au mois de juin. Tu vas pas les faire. Est-ce que t'as pas été tenté de passer ta frustration des Europes sur les mondes?
Non, tout le monde m'a demandé ça, et non, parce que je suis pas entraînée là. Je suis partie deux semaines et demie, trois semaines aux États-Unis pour me développer aussi. Donc, j'ai pas envie de me dire parce que je suis frustrée ou voilà, je suis quelqu'un qui est raisonné, qui sait pourquoi je vais en compétition et pour gagner. Et là, je suis pas en forme et j'ai pas envie du coup qu'on prenne de court.
T'es partie aux États-Unis pour te développer, c'est professionnellement?
Oui, professionnellement, montrer aussi comment le judo est fait en France, le développer aussi un peu ailleurs.
Tu veux rester dans le judo après, une fois que tu auras fini?
Non, pas que, parce que j'aimerais bien être coach de vie, life coach, donc de pouvoir insuffler un petit peu tout ce qu'on m'a donné, toutes les cultures, le respect, les valeurs, et qu'en fait les gens soient bien directement envers eux-mêmes.
Faire une application à Benyanou, Clarisse, et puis pas mon tape, et toi tu as des clients, tu leur dis qu'on est faux.
C'est un peu ça, on va dire, en abrégé.
Clarisse, c'est quoi que la France n'est pas un pays de sport? C'est parce que tu es allé aux États-Unis voir ailleurs de tu.
En voyant aux États-Unis, on n'est vraiment pas un pays des sports, hein, parce que dans tout leur, ils disent lycée, mais c'est même dès le collège, en fait, même primaire, ils ont des installations qui sont incroyables.
Même pour le judo?
Mais le judo, ça reste encore assez. Voilà, on est aux États-Unis, mais mine de rien, des fois, il y avait des tapis, mais en tout cas, la salle de sport, le gym, c'est juste fou. Et par contre, quand on va dans des universités, j'étais à Berkeley, il y a un tatami qui est immense, et il y a des installations de sport juste folles. Donc là, je me dis, ah oui, on a.
Dans ton salon, t'as un tapis de judo ou t'as mis un tapis, mettons, d'Iran ou un truc comme ça?
Non, j'ai pas mis parce que comme tu viens pas faire du judo à la maison, ben. Voilà. Donc je t'attends d'abord. Attention, on va s'inviter tout à l'heure, là,
derrière. Clarisse, accueillez-nous dans le Moscato Show. Avant de reparler judo, c'est intéressant ton passage aux États-Unis, là, trois semaines. Parce que bon, la carrière de Clarisse, maintenant, t'as 32 ans, elle est bien cadrée. C'est-à-dire que tu laisses rien au hasard. Et ces trois semaines-là, c'était vraiment pour préparer ta reconversion. C'est-à-dire que, explique-nous ce que t'as fait. T'as fait des conférences, t'as rencontré des dirigeants importants, des gens qui comptent aux États-Unis, en gros. Hein.
C'est ça, exactement. Je suis allée dans tous les consuls un petit peu où je suis passée, des gens importants, des dirigeants, des managers, des cercles de femmes. C'était vraiment exceptionnel, ces moments-là. Je suis allée dans des universités pour continuer à faire des conférences, pour aussi faire de la transmission. J'ai été dans des écoles élémentaires, mais ils appellent tous lycées, pour aussi partager les valeurs du judo. Donc un peu tout ça, et je me dis oui, forcément à un moment donné il faut travailler l'après carrière, parce que moi il me reste les Jeux de Los Angeles et c'est bientôt la fin.
Est-ce que tu te voyais rester aux États-Unis après Los Angeles? C'est un peu ça l'idée ou pas forcément?
On ne sait pas. Je me ferme pas de porte. En attendant, je vais continuer à travailler. Maintenant, avec ce premier jet où les gens commencent à me connaître et savent qui je suis, je vais y retourner fréquemment. Peut-être aussi commencer à m'entraîner là-bas pour les Jeux de Los Angeles et travailler aussi ce jet lag et toutes les choses, peut-être dans des infrastructures qui seront propres au centre qu'on va avoir dans 3 ans, là, maintenant, et m'approcher un peu plus des Jeux. Et après, qui sait, soit des allers-retours ou soit vivre.
Tu parles bien anglais?
Yes, of course. And you?
Ah non. Non, mais c'est pour ça que je...
What is your name?
Little bit.
Vince Muscat.
Donald Trump.
C'est pas mal, hein?
Donald Trump a un bon kumikata?
J'ai pas testé. Mais bon, on va voir déjà si Vince Muscat.
S'il est solide.
Alors, Clarisse, il y a un truc important en vue de Los Angeles qui est ton dernier gros objectif, disons très gros objectif, c'est que tu envisages aussi de faire un deuxième enfant avant les JO. Donc ça, c'est un défi quand même de fou. C'est-à-dire que le premier, c'est une réussite. Tu as retrouvé un niveau très élevé. Un deuxième, ça va être encore plus difficile.
Ouais, je crois
ça m'a fait rater une Coupe du Monde. Moi, je sais pas
de difficulté.
Ouais, j'aime la difficulté. Je crois que j'aime la difficulté. Après, je me laisse quand même le temps de développer certaines choses et mon business à côté pour surtout préparer mon après-carrière. Et ça viendra quand ça viendra. Donc moi, je me prends pas la tête.
Tu te prends pas la tête.
Je suis bien aussi avec Athéna. Quand ça arrive, ça arrivera. Parce que tout le monde me dit, mais du coup, faut que tu te dépêches. Je me dépêche en rien. Je fais ma vie. Et ça viendra quand ça viendra.
Tu peux avoir une deuxième fois.
Oui, mais t'as pas en tête.
Même pas.
Parce que t'auras changé de mari.
Mais ça ne change rien de changer. C'est l'âge. Enfin, pas de changer, c'est l'âge.
Après, Clarisse, tu ne te dis pas, il y a un délai.
Il y en a beaucoup de femmes après 40 ans.
Après 40 ans.
Parce qu'elles ont des carrières professionnelles.
Ça va, j'ai le temps.
Mais tu ne te dis pas, il y a un délai minimum quand même pour retrouver un niveau physique qui te permette d'être championne olympique?
Je ne me stresse pas. J'ai tout. J'ai toutes les médailles possibles. Je ne me stresse pas. Ça vient pas. J'ai plus rien à aller chercher de plus. Là, c'est que du plus, que du positif. Et je le fais parce que j'aime et c'est avec le cœur. Mmh. Donc, je me stresse pas vraiment.
Comme ça vient, quoi.
Comme ça vient, exactement.
Tu commences à ressentir des blessures, des trucs comme ça?
Pour l'instant, je m'en sors bien.
Tu t'en sors bien?
Je dors bien, j'ai mal nulle part.
Les pouces des pieds sur le tapis?
Non, ni les mains. Regarde, j'ai des belles mains.
Je m'en sors bien.
Tu as des belles mains.
Merci. J'ai des belles mains, mais il ne faut pas voir ses pieds, par contre.
Par contre,
s'il en
met une.
Trop fait de judo, moi.
Après, il y a une autre question, Clarisse. C'est que tu as presque toute ta carrière dominé ta catégorie. La concurrence arrive très fort avec Manon Dekéter, avec Melkia Hochkorn, qui est double championne du monde junior, je crois, ça n'était jamais arrivé pour une Française, qui sont très fortes. Alors, il se trouve qu'en demi-finale des championnats d'Europe, t'as bien secoué Manon, donc t'as montré que t'étais toujours la patronne. Maintenant, si tu fais une pause pour X raisons, est-ce que tu as en tête aussi que ta sélection pour les JO de Los Angeles, elle n'est pas acquise?
Bien sûr, tu l'acceptes? Bien sûr, j'accepte et je l'ai accepté aussi avant. C'est comme ça, la concurrence, c'est ça qui fait grandir et ça qui fait grossir. Et je suis contente d'ailleurs qu'il y ait des filles dans ma catégorie qui vont prendre le relais. Et je trouve que ça faisait un moment, donc j'attendais ces filles-là. Elles travaillent bien, elles sont impressionnantes, elles ont des vraies valeurs aussi du judo et ça montre aussi que tout est possible. Donc c'est bien de pouvoir se battre. Moi, ça sert à rien de gagner toute seule. Hein.
Quand t'as affronté Manon en demi-finale des Europes, est-ce que quand même malgré tout il y avait un surplus de motivation qu'il fallait lui montrer qui était la patronne?
Je dirais pas que c'est un surplus de motivation parce qu'il faut battre tout le monde. Ça sera pas Manon que je vais devoir battre pour aller aux Jeux Olympiques. Ça sera Manon que j'aurai pas pour me qualifier. Mm-hmm. Mais ensuite c'est pas que elle. Je l'ai prise comme une autre athlète à l'étranger où moi je veux être championne d'Europe. Donc en fait que ça soit Manon ou une autre, c'était pareil. J'avais rien contre Manon. Maintenant forcément il y a de la concurrence. Et on est obligé de voir se battre les unes contre les autres parce qu'il n'y aura qu'une Française qui devra aller aux Jeux Olympiques et défendre le titre pour la France. Maintenant, moi, je prends vraiment tout le monde et je prends personne à la légère.
C'est bien de parler comme ça parce que si tu savais ce qu'elle dit sur toi.
Ça va, c'est respectable.
Clarisse, il faut que tu nous reparles d'un moment qui nous a marqué, je pense, tout ce qui a marqué les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est cette fameuse finale par équipe avec la loterie et la roue de la fortune et Teddy Riner. Est-ce que après coup.
On se souvient que c'est toi qui égalise à 3 points.
Oui, c'est toi qui égalise.
Ouais, et j'aurais pu perdre aussi et creuser ma tombe. Hein.
Est-ce que quand cette espèce de roue de la fortune défile comme ça, t'as envie que ça soit toi qui soit tiré au sort ou tu dis non, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre?
Franchement, j'étais tellement déterre et je me suis dit, bon, ben, mine de rien, je viens juste de terminer. Je voyais qu'elle était dévastée. Donc je me suis dit, psychologiquement, si je remets un coup, et je préférais même que ça soit moi, comme ça, je remets un coup directement. On est toutes les deux fatiguées, mais j'ai le psychologique qui est en ma faveur. Et donc tout le monde était vraiment prêt à pouvoir aller. Et après, je pense que et pour vous dire la vérité, quand j'ai vu que c'était Teddy, j'étais pas sereine moi.
Ah ouais, pourquoi?
Non, parce que c'est quand même des Jeux Olympiques. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un golden score direct. On ne sait jamais. Il peut
tomber. Oui.
On ne sait jamais. Donc moi, j'étais vraiment sûre de rien. J'avais confiance en personne. Et je me suis juste dit. Bon bah franchement je tiens comme ça, j'avais confiance en lui mais je n'étais pas sereine.
Tu te souviens du bruit dans la salle?
Non mais c'était
un bon sens du bruit,
c'était un brouhaha
incroyable. Non mais quand ça tombe sur Teddy, c'est comme si on avait gagné. Alors ça c'est un peu chaud.
Ouais.
Pour lui même ça devait être chaud
à vivre.
Ouais,
c'est pour ça, j'ai avec le stress, avec l'engouement, avec le fait que tu dois repartir. Moi j'avais vraiment peur et je me suis dit non mais faut pas qu'on se dise qu'on a gagné.
Bah oui,
vraiment.
Il était fatigué lui en plus.
Il était fatigué, il avait combattu la veille, et là il avait fait un, c'était long. Après il a pris encore 5 minutes. Ben c'est pas non plus, c'est pas un robot hein, Teddy. Et puis l'autre, un petit Ayotoshi, on sait jamais d'où ça peut sortir. J'étais vraiment vraiment pas sereine.
Et puis tous les combats avaient été compliqués, y compris celui de Teddy. Donc il y a un côté miraculeux, t'as l'impression que ça devait arriver parce que c'était chez nous et que dans aucune autre circonstance ce match il peut basculer. Tout est dingue, Joanne Benjamin, toi et Teddy qui êtes les patrons de votre KT mais qui avaient eu du mal aussi. Cette histoire elle est vraiment géniale. Est-ce que c'est le meilleur moment de ta carrière ou il y en a d'autres?
Oh, je dirais pas le meilleur moment de ma carrière parce que c'est partagé, mais c'était un très beau moment et je me suis dit que en termes d'émotion j'ai eu tous les pics.
Ouais.
Ouais, non, où on va perdre pas, où j'étais au bout de ma vie, franchement, c'était un film d'Hollywood, le truc, et j'étais dans une émotion, je me suis dit, on va se faire battre à pleine couture. Quand j'ai vu 3-1, pour moi, c'était terminé. C'était même pas, est-ce que, il va gagner ou pas gagner, qui va gagner. En fait, je me suis dit, mais on est en train de se faire laminer à la maison, c'est très dur. Et au bout d'un moment, il y a un retournement de situation, parce que on les voyait, les cocos, derrière, on voyait les coachs, ils commençaient à sauter.
Ah, tout, oui. Ah ils célébraient,
ouais, ils étaient prêts.
Et à la fin, c'est le gros avec
qui pleure. Et quand il y a eu le retournement de situation, ils commençaient à redescendre, c'était plus calme. Mais c'était horrible, des deux côtés, c'était horrible.
Les plus belles émotions avaient été dites, restent à venir, parce que quand il va être président de la République, ça va être extraordinaire, non?
Je sais pas s'il veut, mais en tout cas, ça serait très drôle.
Merci beaucoup,
pour lui, toi.
Ah oui.
Je sais pas pour qui je voterai, ça dépend contre qui, attends, jamais.
Contre Vincent, pas sûr.
Oh. Je sais pas, Vincent. Ah.
Merci beaucoup, Clarisse. Est-ce qu'elle va être championne olympique en 2028?
Ça va être durer du temps.
Je te mets d'embûche.
Quelle plus de chance d'être championne olympique, Clarisse ou Teddy?
Bonne question.
Moi,
je pense que c'est Teddy encore, non?
Ouais, je pense. Dans un instant, le Kikadi avec une altercation. Pierre Dorian, Vincent Moscato.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, 17h45. Top jingle.
RMC,
le Kikadi
du Super Moscato Show.
Alors nous accueillons Noah et Antoine. Bonjour messieurs.
Je vais gagner.
Salut. Bonjour.
Très très beau cadeau. La caméra Agfa Photo MC3X. Ça sera soit pour Noah, soit pour Antoine. Noah va choisir son équipe tirage au sort. Pardon.
Ça.
Du coéquipier de Stephen.
Stephen, tu vas jouer avec pour ce avec Eric Dimeco.
On va gagner aujourd'hui. J'ai bossé mon
coup. 20. Tu es avec Pierre Dorian. Donc je rappelle les équipes. Eric, Stephen face à Pierrot et Vincent Moscato. Alors, oui, mais c'est gratuit.
Noah.
C'est pas gratuit, il est nul.
Gratuit quand même.
Eric et Stephen.
Eric et
bravo,
Stephen.
Bravo.
Qui de
bravo,
Eric et Stephen, s'il vous plaît.
Eric, what time is it, baby?
Game time, who?
Il n'est pas très cric de guerre, Eric. Hein.
Non, ça va. Non, si on avait pas peur,
on était impressionnés.
9 minutes de Kikadi, une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0 à la fin si elle est tirée au sort. Ah ouais, t'annonces à décima, toi. Pierrot, une réponse?
C'est très dur le lundi parce qu'il a toutes les réponses.
Trash talking.
Et ouais, il a bossé le dimanche. Et moi, normalement, le lundi, je bosse pas et là, j'ai bossé. Donc ça va être.
Qui qu'a dit? Armstrong m'a boycotté pendant 3 ans.
Van Aert.
3 ans et demi pour avoir posé la question.
Ah,
Ah, on fera pas
Bilalian.
Alors, on n'est pas des flics. On n'allait pas dans les chambres voir les seringues, mais on faisait notre métier de journaliste. Gérard Rolls, oui, Pierrot Dorian. Vous savez qu'on avait oublié Vélo Club, l'émission mythique de Gérard, après les étapes. Un jour, il a posé une question dopage à Lance Armstrong et il n'est plus jamais venu.
C'était vraiment un sale type, quand même.
Lance Armstrong.
Gérard Rolls. Lance Armstrong, c'est Gérard
Rolls. Rolls.
Non, Gérard Rolls, super gentil, Gérard.
Ah, c'est un homme fort.
Il roule en Rolls.
Non, c'est Gérard
Rolls. On l'embrasse, Gérard.
Bon mec, Gérard.
Bon mec, ouais.
Il roule en Rolls.
Il est toujours en vie, oui.
Il était au GG,
c'est un des seuls de la France Télévisions, là.
Ah, est en vie.
Non, mais qui a dit. Ah, non, mais parce qu'après, on se moque souvent. Il a dit, j'arrête la télé. Il revient du tout en général. Il a arrêté, il a disparu.
Il fait du vélo, il a plein de forme.
Comme Nelson Montfort, pareil.
Et non, mais lui, on va revenir. Il va facturer ses prestations.
C'est dingue. Par contre, il y en a qui a envie, c'est personne.
Oh, Adrien, allez,
BFM TV.
On a le tas, non, quand même.
Non, BFM TV.
Qui qu'a dit tu vas accélérer, tu vas perdre, donc.
C'est BFM, ça.
Oui, qui qu'a dit on n'a pas eu de refus. Ah, si, juste Gabriel Attal, qui n'était pas très à l'aise avec le fait de parler
Xavier
de
Bellamy, sa vie François Xavier Bellamy.
Intime.
Ah, c'est eux,
Karine Le Marchand.
Karine Le Marchand.
C'est bon.
Stephen
c'est
Brun bon. Et Eric, Ambition Intime, l'émission sur M6.
Alors,
Karine,
par contre, tu vas te filer. Parce que là, je vois, j'ai un calamar avec moi, ça va pas du tout. Tu vas te filer.
Ça va, Pierrot, je
suis dors.
Non, je suis en train de me concentrer.
Calamar, c'est une insulte ou pas?
Non,
c'est un calamar.
Tu dors.
Non, si tu veux l'insulter, c'est pas mon gag.
C'est un fritobiste.
Non, mais le ton était insultant quand même.
Non, c'est un petit, même pas t'essayes, gentil.
Calmer, non, quand même.
J'ai l'impression que ce que c'est. C'est Hugo Mola quand ils ont perdu là.
Oui.
C'est
bonne soirée, messieurs.
Ouais, voilà. 5 minutes de jeu, quand même.
Non, mais là, on est
question de coup.
On est face à une équipe motivée, il faut y aller. C'est tout.
Pierrot, il a dit tu peux faire les soirées que tu veux, mais par contre, il faut que tu joues, il a dit.
Question en un coup.
Ouais.
87, 89, 90, 91, 92, 93. Qui détient le record de victoire à Monaco?
Senna,
Ayrton Senna, repris Monaco.
J'ai pas eu le temps.
Je croyais que c'était Marc Maury qui faisait le palmarès de Rafael Nadal. 87, 89.
Ayrton Senna qui détient toujours, Vincent, le record de victoire au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.
C'était en un coup.
C'est en un coup, si tu
as dit Maury après.
Ah, mais c'était éliminé.
Ben, j'ai rien dit, je sais que j'avais fait une connerie.
Ouais.
Ok. 2-2.
Ayrton Senna, 6 victoires à Monaco, c'est beau, Vincent. Pas facile de gagner sur ce Grand Prix. Bon, qui a dit on a fait un grand pas vers l'arrière. Ça va être très très dur
de pouvoir
raccrocher le bon wagon. Il faut y croire, il reste deux matchs.
Tu n'es pas loin.
La porte.
C'est l'arrière de Montpellier.
Boutier.
Ouais. Félicite ton poulet, Pierrot.
Ça vient m'embrasser, Pierrot.
C'est ça que je veux.
Une gâterie.
Allez, on est dans le match.
Le calamar est devenu un shark. C'est incroyable.
En deux secondes.
Anthony Boutier, ancien maçon.
Bravo.
Arrière de Montpellier. Rien à voir avec Jean-Pierre.
On embrasse le père qui est plus là.
Le score, c'est 3-2 pour l'équipe 20-20.
Il reste 5 minutes dans ce qu'il a dit. Une question auditeur, s'il vous plaît.
Alors, Noah et Antoine.
Allez, Noah et Antoine, question très simple. On va beaucoup en parler, je pense, cet été, là maintenant, et puis cet été. Quel sport pratique Lenny Martinez?
Oh, c'est jamais ça.
Alors, indice chez vous, c'est le fiston de Miguel Martinez. Les gars, proposez.
Le rugby?
Non, on va beaucoup en parler cet été.
Noah, au revoir.
Cet été. Cet été, il se passe quoi l'été?
Cyclisme,
Lenny Martinez.
Pour nous, ça.
Qui a dit cyclisme?
Noah.
Lenny Martinez.
Oh, 3-3 égalité.
Qui a dit? On va encore baisser au moins la moitié de la petite obole qu'on a eue au début de la saison.
Jean-Marc Rossier.
Jean-Michel Rossier. Ah, il est pas Stephen. Le président du HAC, du Havre. Qui
vérifie-le quand même.
Pourquoi hein. J'ai dit Jean-Marc Roussier, le nom compte.
C'est bon. En plus, j'ai pas demandé le prénom.
Il dit Roussier, ça suffit.
Le président du Havre.
C'est toi qui fais les règles, Steve.
Moi, je suis d'accord. Moi, je te complique pas. Dis juste le nom, Steve.
C'est toi, Eric, qui fais les règles.
Il y a pas de 4-3.
Ça, c'est mon calamar qui est offensif, ça.
Calamar. Note un peu mon lassant, un peu par contre, au niveau des règles.
BFM TV.
T'as piétiné la gueule, là, les
gars. Mais non.
Pédirinaire.
Vous savez que j'ai divisé mes revenus par 14 quand je suis devenu ministre.
Laurent Saint-Martin.
Je suis passé d'une Bentley à une Renault à l'époque.
François-Xavier Bellamy.
À l'époque.
Je ne courais pas après la notoriété.
Lionel Jospin.
Je l'avais déjà.
Le maire.
Jean Larcher.
J'ai accepté ce poste à l'époque quand je voulais faire bouger.
Dupont-Moretti.
Dupont-Moretti. Éric Dupond-Moretti.
Bah, c'est le seul qui avait beaucoup d'argent.
Hein. Ah, c'est toi. Ah oui, non, bien bah, sûr, tu sais que c'était
grand avocat comme, mais... Dupond-Moretti, quand même.
J'ai divisé mes revenus par 14 quand je suis devenu ministre.
Allez, on enchaîne. Et... pour laisser une chance à Vincent.
Il gagne bien sa vie, Dupond-Moretti. Question auditeur, une deuxième s'il vous plaît.
Allez,
il reste deux minutes,
Noah.
Tout Noah est possible.
Allez Noah, si tu la trouves, c'est gagné mon poulet.
Allez, un peu de culture et c'est un grand classique. Quel est le dernier Français qui a gagné le Grand Prix de Monaco? 96.
C'est compliqué ça.
Allez Noah.
Ouais, bon, Olivier.
Ça commence.
3, 2,
il n'est pas de Monaco, il est...
On annule. Olivier Panis, les gars, c'est un classique, ça, 96. Aïe.
Olivier Marchal, il y en a une queue.
Vous voyez, il a dit ça.
Allez, Vincent, on n'a qu'une minute trente.
Allez. Question en un coup.
One shot.
Une seule proposition possible, sinon c'est but contre son camp. Dans quel sport travaille Eric Maté?
Le vélo.
Le coach de Montpellier. Ils ont gagné la coupe. Le meilleur moment des Moscato Show.
Il abandonne jamais.
Au tir au but. C'est podcastable. Vous pouvez podcaster Basket Time aussi si vous voulez monter Pierrot un peu plus entre les poteaux.
Tu as parlé de Rennes de ce week-end.
Kikadi.
En direct le 25 août.
Je verrai où le vent me mène. Je suis fier. Will Steele. De ce que j'ai fait.
Didier Digard
pour ce club. Convoyé
Ryan Cherki.
Il a publié une vidéo cet après-midi, ce matin. Une vidéo où il annonce son départ de l'OL. Et il remercie tout le monde, Vincent.
Ça va les poulpes?
Trash talking.
Là, c'est des petits
soupirs. En barrage de Pro D2.
Ouais.
Quelle équipe va affronter Aix-en-Provence?
Grenoble? Non.
Ah non, c'est Colombier.
Béziers.
Brive.
Soyeux. Ça, c'est bon. Pour Pierrot, parce que Eric a dit Soyeux. Soyeux, ça n'existe pas.
Angoulême.
Le club, c'est Soyeux Angoulême. Ah non, je ne peux pas.
Allez.
7-4.
La carotte. Rendez-vous demain, Eric, pour la route vers le Grand Chelem.
Est-ce qu'il y a une Golden Carotte, Frédéric? Un lundi, c'est rare. Il est 17h58 minutes et 34 secondes. Il est très tôt. En général, c'est bon signe, sauf s'il y a du trafic ou je ne sais quoi, on ne sait pas.
Ça sent le pâté.
La Golden Carotte, elle est là.
Voilà. Oui, je savais.
Allez, Vincent.
C'est vraiment.
Allez, Vincent.
C'est unbelievable.
Reprends ma tue. On était déjà parti. À l'apéro.
Ah, c'est sûr que s'il met pas du rugby ou du truc.
Je vous rappelle la règle, hein, c'est 0-0 balle de match. C'est incroyable, c'est lundi, c'est ravioli. Aujourd'hui, dans quelle ville arrive le Giro?
Florence,
Bologne,
Rome,
Milan, Turin,
Sienne.
Et il n'y a pas de Giro!
Il n'y a pas de Giro aujourd'hui, c'est le repos! C'est la journée de repos aujourd'hui sur ce Tour d'Italie! C'est un exploit incroyable! Le calamar aura eu la peau de Stephen et Eric, c'est incroyable! C'est jour de repos!
C'était gagné pour Antoine, bravo Antoine!
Bravo Vavin! Vin!
C'est bon Kikadi, hein?
Ah, c'est excellent le Kikadi.
C'est pas mal.
On s'est habitué à ce lancement de Top Jingle qui au départ était une blague.
C'était une blague, c'était une tradition. Ah, ben il y a Fred Poirier qui rentre en studio. Viens, c'est toi, bonne année à tous les auditeurs, Fleu.
Bonne année à tous. Bonne année, Pierrot. Des charades en 2026
probablement.
Très bien.
Quelle voix.
Rendez-vous lundi en direct avec une charade, tiens.
Allez, ouais. Le premier Moscato Show en direct de l'année, charade de Frédéric Pouillet. Il souffle.
À demain, 15h, pour les meilleurs moments du Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.